Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 30e rencontres de Pétrarque à Montpellier. Ravi de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux depuis autant d'années. Temps de débat donc, nous en avons choisi quelques-uns seulement bien entendu, parmi les plus marquants pour composer un numéro anniversaire, le hors-série coédité par Le Monde et France Culture, et c'est aussi ce capital d'idées accumulées depuis 1986 qui a guidé notre programmation pour cette édition 2016, non pas pour refaire d'anciens débats à l'identique, mais pour nous interroger sur l'actualité de quelques-unes des grandes questions abordées au fil de ces rencontres. La démocratie, bien sûr, la nécessité de réinventer la politique, ce sera le thème de notre ultime rendez-vous, vendredi prochain. Jeudi, nous prendrons acte d'un des phénomènes majeurs de ces 30 dernières années, la globalisation, pour demander à nos invités comment s'orienter dans un monde en mouvement. Mercredi, c'est la France et ses valeurs qui sera l'objet de nos discussions. Et demain, parmi les nombreuses crises que nous aurions pu étudier, c'est celle du progrès que nous avons retenu. Comment la dépasser ? Ce sera donc la question de ce mardi. Aujourd'hui, c'est un petit peu de tout cela dont nous allons parler à travers cet objet qu'est le débat. À quoi bon débattre ? Avec qui le faire ? Et de quoi débattre ? C'est donc ce dont nous allons discuter avec nos invités du jour. L'une d'entre eux s'est déjà exprimée. Il s'agit de l'historienne Michèle Rio-Sarcé, prix Pétrarque 2016 pour son essai « Le procès de la liberté ». Elle nous rejoindra dans quelques instants. Mais pour commencer, nos invités, et c'est à vous que je vais laisser le soin de les présenter, Jean-Bien de Baume, d'autant que, comme on dit d'habitude, on ne les présente plus.
Oui, est-ce qu'il faut vraiment vous présenter Régis Debray et Alain Finkielkraut, qui sont des figures très bien connues de nos auditeurs, de notre public, de nos lecteurs aussi. Ils sont les auteurs de nombreux livres qui ont marqué les esprits. Ce sont deux hommes d'idées et de combats aussi, qui aiment manier la plume, mais aussi parfois l'épée. Hein, et c'est tout à fait dans l'esprit de Pétrarque, puisque Pétrarque, c'est un nom qui est associé à une révolution humaniste qui ne fut pas toujours une révolution de velours. Alain Finkielkraut et Régis Debray sont peut-être aussi et d'abord deux écrivains français, tout simplement, c'est-à-dire des deux hommes qui s'inscrivent dans la tradition de l'écrivain philosophe à la française, et ça implique à la fois qu'ils conjuguent en permanence le travail du style et l'effort de la pensée, et en même temps que cette manière qu'il y a chez eux de toujours marier la littérature et la philosophie, eh bien, est inséparable d'un certain art de l'héritage et de la mémoire, d'une certaine mélancolie aussi. Chez Régis Debray comme chez Alain Finkielkraut, il y a cette manière très benjaminienne de faire de la mélancolie une méthode critique à l'égard du présent. Alors, à l'occasion de ces 30 ans, pour marquer ces 30 ans des rencontres de Pétrarque, toute la question est de savoir si cette mémoire longue, peut-être autre chose qu'une mémoire vaine, pour reprendre l'un des titres d'Alain Finkielkraut, savoir si la remémoration peut échapper à la déploration. En matière de débat d'idées, c'est pas toujours évident. Quand on se penche un peu sur les essais, les textes sur la vie intellectuelle française, on s'aperçoit que ça rate jamais. Les intellectuels français sont toujours les premiers à dire que rien ne va plus dans le débat intellectuel français et que ce champ intellectuel est un champ de ruines. Souvenez-vous du petit livre de Jean-Claude Milner qui s'appelait « Existe-t-il une vie intellectuelle en France ?» Jean-Claude Milner qui avait prononcé ici même une leçon inaugurale il n'y a pas si longtemps, et tout était dans ce livre tendu vers une seule idée. Aujourd'hui, le paysage intellectuel français est un désert aride. Alors, on peut dire que c'est un phénomène des années 2000-2010. En fait, non. Si on remonte bien en amont, eh bien, on voit que c'est toujours la même chose. À chaque génération, quelle que soit la sensibilité des uns et des autres, eh bien, les intellectuels disent que leur champ, leur milieu est devenu désertique. Et donc j'ai retrouvé notamment, cher Alain Finkielkraut, un petit texte de François Furet, qui est un historien disparu, que Régis Debray et vous-même, je crois, avez beaucoup aimé. Et en 1980, donc avant même la création de ces rencontres de Pétrarque, François Furet commentait un numéro du débat, un numéro assez célèbre où Pierre Nora avait demandé à 25 jeunes intellectuels, dont vous, Alain Finkielkraut, avec d'autres, Blandine Criégel, Luc Ferry, Rosan Vallon et d'autres, il leur avait demandé de répondre à une seule question, De quoi l'avenir intellectuel sera-t-il fait ? Et chacun et chacune a répondu à cette question. Et Furet, donc, qui était votre aîné, lit ces textes et est frappé, hein, il le dit dans ce texte paru dans le Nouvel Observateur, il est frappé par le pessimisme de ces textes. Il dit que tout ce volume, tout ce numéro du débat traduit une conscience, je le cite, une conscience pessimiste à peu près générale des conditions de la vie intellectuelle. Celle-ci, la vie intellectuelle, est décrite ou implicitement perçue comme un lieu de conflit narcissique, sans merci, où l'un perd ce que l'autre gagne. Planant sur cette mêlée confuse, continue Furet, des médias omniprésents, il fallait y venir quand même, des médias omniprésents, dispensateurs d'un discours à la fois vulgaire et capital. Alors, c'est la première question que je voulais vous poser, Alain Finkielkraut. Est-ce que, puisqu'on parlait à nouveau de Benjamin tout à l'heure, vous voyez cette figure de l'ange de l'histoire chez Benjamin qui se retourne, qui a toujours le regard tourné vers l'arrière et qui aperçoit toujours un champ de ruines. Est-ce que l'ange de Pétrarque n'est pas aussi cet ange benjaminien qui, quand il se retourne vers 30 ans de débat, doit forcément, par une sorte de compulsion collective, ben, voir devant lui simplement un champ de ruines? C'est un peu décourageant. Et si je vous pose la question à vous, c'est pas parce que vous étiez d'emblée aux rencontres de Pétrarque il y a 30 ans, c'est aussi parce que vous passez pour quelqu'un comme un, globalement, d'optimiste.
Ah, elle est bonne. Alors, je vais essayer de répondre à votre question, Jean-Bernard Baume, en commentant le point d'exclamation de ce débattre qui fait le sujet de ces 30e rencontres de Pétrarque. Dans ce point d'exclamation, j'entends un impératif, un souhait, mais aussi un rappel à l'ordre, car, et je vais essayer de le prouver en quelques minutes, très brèves, on ne débat plus. L'heure est aux invectives, aux anathèmes, rien à voir avec le désert, à l'ostracisme. On pratique la chasse à l'homme, on dresse des listes noires. Ce n'est pas la première fois dans notre histoire. Dans un très beau livre, Sylvia Emmanuel Berle parle du climat de la fin des années 20 du XXe siècle, où qu'on alla, disait-il, on marchait sur des amitiés mortes. Et on a vu dans les années 50 une amitié particulièrement illustre, volée en éclats, c'était l'amitié entre Sartre et Camus à la suite de la parution de L'homme révolté. Sur son cadet, Sartre a fait tomber le double diagnostic d'incompétence et d'iniquité. J'aurais au moins ceci de commun avec Hegel que vous ne nous aurez lu ni l'un ni l'autre, et pour le reste, Camus était accusé d'avoir choisi le camp des oppresseurs parce qu'il refusait de choisir son camp et parce qu'il n'était sensible qu'à l'absurdité des agitations humaines. En 1966, soit quelques années après la mort de Camus, Sartre insistait dans une conférence très intéressante donnée au Japon. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? L'ennemi le plus direct de l'intellectuel est ce que j'appellerais le faux intellectuel. Et que Nizan nommait le chien de garde. Il interdit la contre-violence aux opprimés, il contribue à éloigner les colonisés de la révolte en leur faisant miroiter le piège du réformisme. Le faux intellectuel, toujours la même histoire. Imposture et infamie. Mais simplement, j'ai connu autre chose. Et quand je me retourne sur Pétrarque, je vois pas du tout un champ de ruines. Il y a eu un moment béni dans la vie intellectuelle, inauguré notamment, c'était une inauguration, par les rencontres de Pétrarque telles qu'elles ont été voulues par Jean-Marie Borzex. Une période bénie, hélas, c'est une parenthèse enchantée, s'est ouverte alors. La première rencontre de Pétrarque, Jean-Marie Borzex l'avait imaginée autour des grandes revues françaises. Commentaire, le débat, esprit. Et commentaire, comme Borzex l'a souligné à plusieurs reprises, ils étaient arrivés un peu en commando, si je puis dire. C'est-à-dire que le débat était très vif, mais le désaccord n'engendrait pas la haine. Hein ? On s'empoignait, mais simplement, on s'écoutait. On acceptait d'être critiqué. Pourquoi ? Sans doute parce que la critique, cette critique que nous entendions, que nous acceptions, nous la portions un peu en nous-mêmes. si vous voulez. Cette époque, elle a été fondée théoriquement par un très grand penseur polonais, un des grands penseurs de la dissidence, qui avait été communiste, puis communiste révisionniste, Leszek Kolakowski, hein, qui vivait à cette époque à Oxford et qui a écrit dans commentaire un credo comment être conservateur socialiste libéral. Conservateur socialiste libéral. C'est l'expérience totalitaire qui lui avait appris à mettre ces traits d'union. Pourquoi conservateur? Eh bien, parce que l'idée fixe, selon lui, de la philosophie des Lumières, à savoir que l'envie, la vanité, la cupidité et l'instinct d'agression ont toujours pour cause les institutions sociales défectueuses et disparaîtront lorsque ces institutions auront été réformées, cette idée fixe n'est pas seulement tout à fait invraisemblable et contraire à l'expérience, mais extrêmement dangereuse. Et il ajoutait, nourrir l'espoir qu'on pourra institutionnaliser la fraternité, l'amour, l'altruisme, c'est préparer à coup sûr l'avènement du despotisme. Mais l'expérience totalitaire lui avait appris aussi la validité du libéralisme. Une communauté humaine où l'initiative est bridée et la concurrence anéantie au nom de l'idéal, d'égalité, dans une telle communauté, la stagnation s'installe et le ressentissement sévit. Mais Kolakowski ne voulait de propagande d'aucun côté, donc il pensait que le socialiste a raison de penser, de dire qu'une communauté où le marché régnerait en maître dans tous les secteurs de la vie ne serait pas plus vivable au bout du compte que les sociétés où le stimulant du profit a été entièrement rayé du nombre des forces régulatrices de la production. Et je voudrais terminer ce petit passage sur Kolakowski avec cette citation. Il est absurde et hypocrite de conclure qu'une société parfaite et exempte de conflits étant impossible, l'inégalité, sous quelque forme qu'elle existe, est inévitable et toutes les formes de profit sont justifiées. Voilà, tout le monde n'était pas à égalité conservateur, socialiste, libéral, mais on portait malgré tout ces trois postulations en soi, c'est pourquoi on s'écoutait. Cette époque n'est plus, cette parenthèse s'est fermée. Malheureusement, le totalitarisme est tombé dans l'oubli peu après la chute du mur de Berlin et puis surtout avec la montée du Front National, c'est l'antifascisme qui occupe toute la place. Et dès lors, ressurgit la figure du faux intellectuel. Il est médiatique et il pense mal. Il pense mal parce qu'il est l'allié objectif du Front National. Il fait le jeu du Front National. Et ce qui légitime ce grand retour de la haine sur la scène intellectuelle, c'est l'analogie obsessionnelle avec les années 30. On nous explique de toutes parts, enfin, nombre de journalistes et de sociologues nous expliquent que les thèmes traditionnalistes issus de la rhétorique de l'action française, traditionnalistes et nationalistes, font leur retour, sauf que on réoriente contre les musulmans une hostilité autrefois dirigée contre les juifs. Mais il y a un problème. Il y a un problème et j'en aurai fini.
Voilà.
J'en aurai fini, mais je vais dire le problème, parce que sinon j'aurais pas fini. Il y a un problème, c'est que dans les territoires perdus de la République, livre qui ne figure pas dans la liste des grands des ouvrages importants qui se trouvent à la fin de
du hors-série, ouais.
Eh bien les professeurs qui ont collaboré à cet ouvrage prennent acte de l'émergence et de la puissance de l'antisémitisme dans les quartiers sensibles. Et si révolte il y a aussi dans ces territoires, c'est pas seulement contre ce que notre société a d'inégalitaire et de répressif, mais aussi contre ce qu'elle a d'émancipateur, la laïcité, c'est-à-dire la liberté d'esprit et l'égalité des hommes et des femmes. Donc, et là j'ai fini, parce que la réalité leur échappe, parce qu'ils sont trahis par les faits, les antifascistes enragent, et plutôt que de chercher à penser la spécificité de la situation présente, ils redoublent de haine à l'égard des porteurs de la mauvaise nouvelle idéologique. La réalité ne donnant aucun signe de vouloir rentrer au bercail, je crois pouvoir dire que le jeu de massacre va continuer.
Merci pour cette première intervention, Alain Finkielkraut. Et nous allons, à présent, écouter Régis Debray. Régis Debray, Est-ce que déjà vous partagez au moins une partie du diagnostic d'Alain Finkielkraut, d'avoir peut-être vécu ce qui était une forme de parenthèse enchantée où on pouvait ne pas être d'accord et débattre pour autant? Et est-ce la raison peut-être d'un partage de ce diagnostic qui fait qu'aujourd'hui vous préférez ne pas en général participer au débat? C'est ce que vous m'avez dit d'ailleurs l'autre jour, quand on discute un petit peu par téléphone, vous m'avez dit voilà, moi le débat ça n'est pas pour moi, c'est pas quelque chose que je trouve utile aujourd'hui. Enfin, peut-être pas seulement aujourd'hui d'ailleurs.
Bon, vous avez entendu l'exposé un peu long mais riche d'un homme en colère, d'un homme dépité. Moi, je me permettrais simplement quelques remarques d'un homme au balcon, si j'ose dire, qui ne regarde pas les choses de haut, mais d'un peu loin. Et quand je les vois de loin, qu'est-ce que je constate? Que l'intellectuel fait la guerre. C'est sa définition. L'intellectuel n'est pas le savant, pas plus que le curé n'est le moine. Le moine a un rapport direct avec Dieu. Le curé a un rapport direct avec les gens, les ouailles. Et l'intellectuel n'est pas le savant. Le savant a un rapport direct avec la vérité. L'intellectuel a un projet d'influence. L'intellectuel, son origine l'indique, 1898, Zola, Laurent, j'accuse. L'intellectuel est un homme d'études, un homme privé qui veut rendre public ses convictions privées sur le cours des choses. Il a donc un projet d'influence, il veut modifier une opinion, et dans la démocratie d'opinion, c'est le combattant d'une guerre très spéciale, qui est la guerre des idées. Qui est une guerre blanche, si vous voulez, qui ne fait pas de mort, en tout cas immédiatement, mais qui, requiert effectivement une éthique. Alors là où je suis d'accord avec Alain, c'est qu'il y a une éthique du combat. Alors passons sur l'accusation d'intellectuel médiatique. N'est-ce pas tout intellectuel et médiatique par définition? Lui reprocher d'être médiatique, c'est reprocher à un athlète d'avoir des jambes, c'est reprocher à un soldat d'avoir des armes. Il faut bien qu'un intellectuel ait des médias, France Culture par exemple, Le Monde ou autre véhicule pour rendre public ses idées privées. Et donc il est médiatique par définition. Alors on peut dire effectivement que l'intellectuel médiatique est celui qui respecte l'agenda des autres médias, c'est-à-dire celui à qui le dossier de presse ou la revue de presse hebdomadaire sert un peu de matière. Mais ça c'est autre chose. Mais tous les intellectuels sont médiatiques. Moi le premier, puisque j'ai un micro devant moi, hein, j'ai un médium, je me permets donc de rendre public ce que je pense de l'intellectuel. Donc c'est vrai que l'intellectuel est celui qui fait des essais. L'essai, c'est un peu entre l'article et la thèse, hein, c'est entre le journalisme et l'université. En tout cas, l'essai, il est polémique. Bon. L'intellectuel est donc le lettré qui rentre en politique, et la politique, elle est polémique, c'est comme ça. C'est un affrontement d'idées. C'est un affrontement d'opinions. Et l'intellectuel vise à être un leader d'opinion, donc un homme politique qui fait de la politique sans en faire, si vous voulez. Enfin, qui a tous les avantages sans les inconvénients, je veux dire. C'est-à-dire qu'il se fait assez peu engueuler dans la rue, ça peut arriver, mais c'est pas l'ordinaire. C'est l'homme politique qui se fait engueuler, généralement. Alors, c'est vrai que l'intellectuel, et Finkielkraut en est un exemplaire, Il prend parti, il lance une querelle. Il lance une querelle qui est une sorte de duel, qui appelle des répliques. Mais cette querelle doit évidemment s'en tenir à une éthique, et c'est là où je rejoins Alain, il y a une différence entre l'essai et le pamphlet. Je dirais que l'essai, même s'il est politique, met en cause un état de choses, alors que la polémique met en cause des hommes, si vous voulez. Un essai, il est ad rem, à la chose même, et quand il devient ad hominem, il devient un pamphlet, c'est-à-dire qu'il s'en prend aux personnes. Et ça, j'avoue que c'est difficilement supportable et qu'il y a là peut-être quelque chose qui, comme il le disait, rappelle les années 30. Bon, moi, personnellement, j'aime trop la polémique pour céder au pamphlet. Mais je reconnais que le pamphlet est une tentation, surtout quand on est un peu écrivain, c'est un genre littéraire. Mais je crois que c'est un genre dangereux dans la mesure où il peut exciter de bien vilains sentiments, sans prendre par exemple au physique d'une personne, à l'origine d'une personne, à ses fréquentations. Tout ça est effectivement insupportable. Mais alors, moi, il me semble que, à part ce dérapage, qui tient peut-être à ce qu'on pourrait appeler la brutalisation des impatiences, c'est-à-dire le fait que nous voulons toujours, dans le médium en continu, l'info en temps continu, n'est-ce pas ? Il faut provoquer, il faut être violent pour susciter précisément des répliques, des contre-violences, donc pour occuper le terrain. Là, je crois que c'est lié en partie à la médiatisation des conflits intellectuels, puisque, comme vous le savez, en France, à part vous, les gens ne lisent plus de livres. Ils lisent des interviews. Ils lisent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent à la radio et à la télévision. Et c'est ça qui est un peu le moteur, si vous voulez, des rebonds, des débats, des grandes polémiques. Et dans la mesure donc où, pour faire lire un livre, il faut hausser le ton, il faut que le livre soit un événement, c'est comme ça qu'on dit, il faut que ce soit un choc, et un électrochoc. Donc, évidemment, on est tenté par ce que j'appelle la brutalité. Alors que le débat devrait être plutôt une marque de civilisation, c'est-à-dire d'agressivité dominée.
Mais pardonnez-moi, Régis Debray, j'ai l'impression que vous parlez de toutes ces choses avec une certaine distance, comme si vous ne vous sentiez pas directement vous concerné. De la même manière, en tout cas, c'est assez net qu'Alain Finkielkraut.
Non, moi je ne fais plus la guerre, mais je l'ai fait. Hein. J'ai essayé, mais je l'ai perdu. Donc. Elle l'a perdu et ont constaté que j'avais plus les moyens de la faire, c'est-à-dire que j'avais plus les vecteurs, ni non plus le corps de rattachement, puisque un républicain de gauche, un peu archéo, ça n'a pas exactement d'organe d'expression. Donc, oui. Moi, je me suis retiré, si vous voulez, pour devenir ce qu'on appelle un écrivain. Un écrivain, c'est formidable, c'est quelqu'un qui peut se payer le luxe de se taire quand il n'a rien à dire. C'est un truc très rare. C'est-à-dire. Vous
continuez quand même. Hein.
Vous évitez la question du journaliste de BFM TV qui vous appelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez du but marqué hier par truc ? Moi, j'en pense rien. Donc, finalement, il ne m'appelle plus. Et j'en suis très content. Parce qu'un intellectuel, ça se bagarre avec les gens. Un écrivain, ça se bagarre avec les mots.
Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que cette idée de bagarre. Vous avez commencé tout de suite en disant l'intellectuel, il fait la guerre. Lui reprocher, ce serait bizarre. Et quelque part, ça crée un dissensus ou un débat avec Alain Finkielkraut qui a dit, bon, il y a eu une époque bénie où on pouvait être dans la critique argumentée, etc., respectueuse, et puis maintenant, justement, c'est la guerre, c'est l'invective. Vous répondez, bah oui, mais en fait, l'intellectuel est toujours en guerre, c'est sa définition.
Ça a toujours été la guerre, oui.
Ça a toujours été sa définition. Et donc, moi, je me souviens d'un livre qui s'appelait Le mot qui tue, qui était un livre sur l'histoire des violences intellectuelles, dirigé par Vincent Azoulay et Patrick Boucheron, où il rappelait justement que Pétrarque lui-même définissait ce champ de bataille qui est toujours le champ intellectuel comme, je cite, une arène poussiéreuse et bruissante d'injures. Donc, en fait, toujours du côté de l'invective. Et il y a chez Pétrarque, d'ailleurs, des propos extrêmement durs. Et donc, il y a effectivement cette distinction. Il y a cette distinction à faire entre la guerre où on respecte certaines règles, un code, et ce que vous avez très bien dit, l'attaque sur le corps, l'attaque sur le nom, hein, l'attaque, toutes ces choses, les attaques ad hominem. Ça veut dire quand même que la distinction que vous faisiez à Alain Finkielkraut tout à l'heure est pas tout à fait évidente, puisque tout intellectuel est apparemment, par définition, en guerre. Et ça veut dire surtout que peut-être aujourd'hui, le problème du débat, s'il y a un problème du débat en France, il n'est peut-être pas là où vous dites, c'est-à-dire peut-être qu'il est au contraire dans le fait qu'aujourd'hui il n'y a que deux types de choses. D'un côté, l'invective, les attaques ad hominem très violentes, c'est-à-dire les pamphlétaires venimeux. Et de l'autre, une sorte de courtoisie qui fait qu'on ne critique plus jamais le texte du cher confrère, le texte du cher collègue, etc. Moi, c'est quelque chose qui me frappe sans cesse. J'ai l'impression qu'il y a de ce point de vue-là une crise critique globalisée qui mine le débat d'idées en France, et que quand je demande aux intellectuels que je fréquente, c'est pas toujours le cas, mais je leur dis souvent, mais alors quand vous recevez le texte de votre ami un tel, quand vous recevez le texte de votre collègue un tel, est-ce que vous lui répondez, est-ce que vous lui dites les choses, est-ce que vous faites face, est-ce que vous sentez comme une exigence de votre amitié et de la loyauté de lui dire, de donner un regard critique? Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, un peu partout, la franchise, un peu partout, c'est-à-dire dans les colloques académiques, comme dans un certain monde médiatique, eh bien, la franchise passe pour une brutalité. Voyez. Donc, c'est pas, la question là serait pas du trop plein de violence, ce serait une sorte d'absence, non pas de violence, voyez, sur le corps, sur le nom, mais, voilà, d'un face-à-face loyal, franc, qui fait avancer le débat. Alain Finkielkraut.
Je n'ai pas cette expérience. Peut-être que je ne fréquente plus assez les colloques académiques pour m'en rendre compte. Mais je le répète, je ne fais pas la guerre. C'est pas vrai. C'est-à-dire, en effet, si vous écrivez quelque chose, un essai notamment, il y a une différence entre l'essai et le roman, c'est parce que vous avez... Vous pensez que vous avez une idée originale à émettre, à proposer. Donc, vous prenez la doxa, ou ce qui vous paraît être la doxa, vous pouvez avoir tort, à rebrousse-poil. Donc, vous préparez, évidemment, à la discussion. Et c'est normal. Et je le répète, cette discussion peut être civilisée, et elle l'a été. Elle l'a été dans des conditions que j'ai dites, pour des raisons que j'ai essayé d'exprimer à une époque où on était avec des dosages divers, conservateurs, libéraux et socialistes. Je le répète, cette époque est aujourd'hui révolue et nous vivons un moment particulièrement dur de la vie intellectuelle. La haine a fait son grand retour. Et donc, je suis assez vieux pour dire que j'ai connu une époque où les intellectuels discutaient sans se haïr, je vais encore enfoncer le clou des rencontres de Pétrarque, mais enfin, il fut un temps, et c'était le souci obsessionnel de Jean-Marie Borzex, d'ouvrir le champ, le souci du pluralisme. Alors on pouvait avoir Daniel Ben Saïd et Alain de Benoît, ici, à Montpellier. Est-ce que c'était dans la même édition de Réplique? Peut-être. En tout cas, l'éventail était extrêmement ouvert.
Bah, aujourd'hui, on peut avoir Michel Rieu-Sarcet, qui connaît assez bien l'œuvre de Daniel Ben Saïd, et Alain Finkielkraut, qui n'est pas comme Alain de Benoît.
Alain Finkielkraut dans le rôle d'Alain de Benoît. Il a tout dit. Bien sûr que si.
Il y a quand même un pluralisme.
Bien sûr que si. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, si vous voulez. Parce que, je le répète, je ne cherche pas, je cherche le débat, j'accepte que le débat soit dur, mais dès lors que l'on nous fait vivre dans le climat complètement artificiel de l'antifascisme et de l'antiracisme, c'est l'anathème qui a remplacé le débat, parce que l'accusation de raciste est une accusation dont vous ne pouvez pas vous relever. Quand Régis Debray dit « l'intellectuel fait la guerre », moi, je n'ai pas l'habitude, si vous voulez, de disqualifier mes adversaires en les rejetant hors de l'humanité. Il se trouve que j'invite à réplique Alain Badiou à plusieurs reprises. Il vient, donc c'est l'époque encore ouverte par Borzex. Il est venu très récemment encore. J'ai voulu faire un débat avec Alain Badiou et Michael Fessel autour de la philosophie et la vie. Parce que j'avais appris qu'Alain Badiou publiait une sorte d'adresse socratique aux jeunes gens. Alors ce tournant de la philosophie contemporaine, cette volonté de revenir, si vous voulez, à la thématique de la philosophie antique, la philosophie comme art de vivre, m'intéressait. C'était le thème du livre de Fessel également. Alain Badiou m'a répondu par une lettre ouverte, si vous voulez. Donc je peux la citer. En disant des raisons pour lesquelles il ne pouvait plus parler avec moi, il a dit « en raison du devenir central dans ma pensée du concept néo-nazi d'état ethnique ». Moi, néo-nazi. Donc voilà le type de raccourci auquel on assiste. Alors je me mets en avant parce que, mais c'est un exemple parmi d'autres.
Mais c'est vrai, pour aller dans votre sens,
il se passe...
C'est vrai que nous avons cherché pour discuter avec vous plusieurs intellectuels, et je vais vous dire, c'est très intéressant, parce que plusieurs intellectuels, là c'était dans les colonnes du Monde, plusieurs intellectuels d'ailleurs de renom, qui souvent d'ailleurs sont venus aux rencontres de Pétrarque, et je vais vous dire, l'argument qui a été le leur pour dire je ne veux pas discuter avec Alain Finkielkraut, c'est de dire... Il n'y a pas de débat avec Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut aujourd'hui est dans l'invective. C'est exactement le mot qu'ils ont utilisé. Donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que chacun a l'impression d'être exclu par l'invective.
Mais
de
vous rendez compte, vous rendez compte de ce que vous dites, Jean Bienbeau.
Je vous dis, j'invite
Jacques Rancière. Mais c'est pas possible que je vous laisse dire une chose pareille. J'invite Jacques Rancière avec Jacques-Alain Miller à mon émission. J'invite Alain Badiou à mon émission. Donc je ne suis pas dans l'invective.
Non, mais je vous dis pas je vous dis que c'est ce qui nous a été répondu.
Je n'ai jamais. Jamais eu d'équivalent de l'accusation dont je suis l'objet de ma part. Il est faux de dire cela. Je considère que j'ai des adversaires. C'est des adversaires avec lesquels j'ai envie de parler. Et vous m'avez proposé un certain nombre de noms. Vous m'avez proposé Étienne Balibar. Vous m'avez proposé Jacques Rancière. Vous m'avez proposé Pierre Rosanvallon. Et j'ai dit que je n'avais aucune raison de refuser l'un ou l'autre, que j'étais absolument d'accord pour parler avec eux.
Donc, et c'est si vrai, ça pour
retourner l'accusation contre moi,
voilà.
Alors même on parle à mon propos, si vous voulez, de devenir central dans ma pensée du concept nazi d'état ethnique, dans le mépris total de mon parcours, de mes références, de mes origines, c'est si vous voulez, vous n'avez pas le droit, Jean Birbon, de tracer le moindre signe d'équivalence entre mon attitude et celle-là.
Sortons peut-être, si vous le voulez bien, et Jean Birnbaum et Alain Finkielkraut, de ce débat entre vous deux qui est intéressant. Mais le débat du jour ne consiste pas à se demander si on peut débattre ou pas avec Alain Finkielkraut, mais d'interroger aussi cette question de débat à la lueur aussi de ces 30 années des éditions de Pétrarque. Et Régis Debray, qui lui n'a pas eu à être beaucoup forcé pour accepter de venir. Il a accepté extrêmement gentiment de venir discuter. Donc essayons d'organiser pendant la demi-heure qui nous reste cette discussion. Régis Debray, qui a un certain nombre de choses à nous dire, qui voulait réagir.
D'abord, vous voyez, quand je disais que ça sentait la poudre, hein, je ne me trompais pas. L'intelligentsia, ça se bagarre et c'est souvent beaucoup un moi-je contre un autre moi-je. Cela dit... Moi, je vais rendre hommage à Alain Finkielkraut, qui est un homme avec qui je suis pas d'accord, vous l'avez compris, mais que je respecte. Et c'est un homme qui entretient vraiment tous les samedis matins le débat. Et il accepte... Et ça, je trouve que c'est une éthique qu'il maintient en vie, au même titre que Jean-Marie Borzex, qui a... civiliser la sauvagerie en mettant aux prises des gens qui étaient là pour se battre non pas avec les mains mais avec les mots. Donc, cela étant dit, j'en reviens tout de même à mon propos. On a cité Émile Zola. Je voudrais rappeler qu'Émile Zola, qui est quasi le créateur du mot intellectuel, même si c'est un manifeste à propos de lui qui a lancé ce néologisme, ce substantif, 1898, je vous le rappelle. Eh bien, Émile Zola, il a écrit « Éloge de la haine ». Un texte que vous trouverez. « Éloge de la haine » par Émile Zola. Alors, évidemment, c'est pas n'importe quelle haine. C'est une haine policée. C'est pas l'attaque sauvage. C'est le duel à fleuret moucheté. Et oui, je dis qu'il y a une esthétique du duel. Il y a aussi une éthique du duel... J'aimerais qu'on n'en sorte pas trop. Moi, personnellement, si vous voulez, ce qui m'interpelle, comme on dit aujourd'hui, c'est pas la violence de nos débats internes qui me semble avoir existé tout le temps, et parfois d'ailleurs de façon beaucoup plus dure, beaucoup plus caricaturale, beaucoup plus outrée qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le niveau d'injure était considérable en 1990 ou 1920, 1950. Non, moi, ce qui m'angoisse un peu aujourd'hui, c'est que l'autorité politique du pouvoir intellectuel est extrêmement faible et que l'autorité intellectuelle du pouvoir politique est encore plus faible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport entre les deux mondes. Il n'y a plus de rapport entre le monde de la pensée et le monde de l'action. Autrement dit, il n'y a plus de rapport entre le monde intellectuel et le monde politique.
La faute à qui ?
Les sociétés de pensée sont devenues des think tanks. Hein. Il faut de l'argent. Il faut être inscrit dans une fondation en accord avec une grande entreprise. Bref, nous avons des gouvernants qui deviennent de plus en plus incultes et qui se moquent complètement. Je doute qu'ils écoutent France Culture. Je le souhaiterais pour eux, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils écoutent BFM TV. Parce qu'il faut être toujours en information continue, comme ça, pour pouvoir répondre du tac au tac, réplique immédiate, communiquant, etc., communication, bon, voilà. Donc c'est ça, ce qui m'irrite, c'est débattre, oui, mais pourquoi faire ? Est-ce que les mots, les concepts que nous forgeons, les débats que nous lançons, peuvent se transformer en décision, en orientation, en action, en organisation ? Est-ce que le moi-je peut déboucher sur un nous ? Autrement dit, est-ce que la fonction intellectuelle est encore une fonction civique ? Et j'ai peur qu'elle devienne tellement, je dirais, endogamique, tellement ethnocentrique, tellement clôturée sur elle-même, que nous ayons un peu une situation à l'américaine, où on discute beaucoup dans les universités, mais il n'y a aucun rapport entre, disons, l'universitaire et le populaire, si vous voulez. Hein. Bon.
Donc, Régis Debray, les politiques ne sont pas les seuls responsables de cette distance qui existe aujourd'hui, justement, entre le monde intellectuel et eux.
Les politiques ont tout de même le tort d'avoir fait Sciences Po. C'est-à-dire, les politiques ont tout de même été formatés, déculturés par une business school qui s'appelle l'École nationale d'administration, où on n'a aucune idée des longues durées, aucune idée de l'histoire, de la géographie. Le paradoxe aujourd'hui est que jamais l'histoire n'a été aussi présente dans l'actualité et jamais elle n'a été aussi absente dans la tête des politiques. Hein ? C'est-à-dire, jamais la longue durée n'a été aussi incarné dans l'événement, je parle au niveau international, donc, hein, et jamais la longue durée n'a été aussi absente. De gens qui ont deux béquilles, c'est l'économie d'un côté et un peu de morale de l'autre. Hein, l'économie et la morale, ça marche ensemble très bien. C'est la formule gagnante, si vous voulez. Bon. Mais, et l'histoire, et la géographie, et l'histoire des religions, et les civilisations. C'est difficile d'expliquer à un ministre des Affaires étrangères aujourd'hui que s'il y a un conflit en Ukraine, le schisme de 1054 n'y est pas pour rien. Hein, et que si vous regardez la ligne qui divise l'Europe en deux, c'est la ligne de 1054. Mais il s'en fout, il sait même pas ce que c'est, orthodoxe, latin, il s'en fout. Bon, ce qui importe, c'est qu'il ait une reprise de son communiqué dans Libération du lendemain. Bon. Donc là, on a un assèchement intellectuel du milieu politique et peut-être aussi un assèchement politique du milieu intellectuel qui fait problème. Voilà.
Alors nous allons donner la parole à Michèle Rieu-Sarcey qui est également présente parmi nous. Michèle Rieu-Sarcey, je vous rappelle qu'elle est historienne, et notamment justement historienne d'un certain regard critique. Elle a publié Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle français à la découverte. Vous êtes la lauréate du prix Pétrarque France Culture Le Monde de l'essai. Et finalement, d'ailleurs, c'est vous qui avez débattu dans le fameux hors-série que nous avons publié avec France Culture sur 30 ans de débat. Vous avez débattu de façon très loyale et très frontale avec Marcel Gauchet. Et c'est une question qu'on vous avait posée. Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, il n'y a pas une crise du regard critique, de la la franchise dans le milieu intellectuel? Est-ce qu'on se dit les choses? Ça veut pas dire, est-ce qu'on s'insulte? Est-ce que pour vous, donc, si on résume un peu ou on prend deux fils de ce débat, est-ce qu'il y a un triomphe de l'invective? Ou est-ce qu'il y a, et où, une sorte de crise de l'esprit critique? Parce que c'est votre sujet, la pensée critique et l'esprit critique, Michel Rieux-Sarcet.
Je ne sais pas s'il y a un triomphe de l'invective. Je vous ai entendu, j'ai entendu Alain Finkielkraut. Je comprends si vraiment il vit ce qu'il nous dit, c'est insupportable. Et mais il se trouve que Badiou n'est pas là, que Rancière est absent, que Balibar est encore... pas parmi nous, etc., etc. On parle de gens qui ne sont pas là. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Camus et Sartre. Vous avez raison. Je dirais presque ce moment de haine ou d'invective n'est sans doute pas fondateur, mais il se retrouve dans des moments de crise extraordinaires. C'est-à-dire qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, quand on sait que Sartre avait une réelle attache à la liberté de penser, à ce moment-là, l'engagement qu'il demandait peut-être imposait une rupture radicale avec Camus. On ne va pas revenir sur ce moment. Puis, il y a d'autres temps qui ont été particulièrement difficiles. J'avoue que moi aussi, j'ai vécu ces moments. C'était tout à fait autre chose. On estimait à ce moment-là, excusez-moi parce que je vais peut-être mettre en cause le monde et peut-être aussi France Culture, je ne sais pas, mais je ne crois pas. À un moment très difficile, très très difficile, il était question d'une grande avancée, d'une naissance d'un peuple chinois nouveau. Nous étions extrêmement minoritaires, même au monde. Il était difficile de s'exprimer. Tout le monde était favorable à la révolution culturelle. Je me souviens, nous étions quelques-uns à comptabiliser les morts à ce moment-là. Alors, je pourrais dire effectivement, ce moment pour moi a été un moment très difficile à vivre. Je n'étais pas une intellectuelle. J'étais tout simplement une apprentie qui essayait de réfléchir à cette pensée critique avec ce moment qui m'avait formé, en quelque sorte forgé, où j'ai connu la fin de la guerre d'Algérie, difficile, particulièrement difficile. Et j'avoue que à ce moment-là, mais il est vrai que j'étais jeune, j'ai choisi le camp de Sartre. Alors peut-être parce que Sartre m'a appris ce qu'était la liberté quand il disait que l'existence précède l'essence, tout d'un coup je me disais, personne n'est responsable de ce que je suis. Je suis désormais la seule responsable de ce que je dis. Et j'avoue que ça m'a aidé énormément ensuite. Et lorsque vous dites, Régis Debray, j'ai suivi, bien sûr, votre parcours. Et donc, vous dites maintenant, vous êtes retiré, vous avez effectivement choisi d'écrire et de ne plus être sur cette scène publique un peu difficile. Vous avez échoué, j'allais dire nous avons échoué. La liberté reste à conquérir. Et maintenant, il me semble qu'on doit sortir de ce débat entre soi, que le moment est suffisamment grave pour qu'on s'empare de ce rapport à l'actualité politique et la pensée intellectuelle. C'est-à-dire le rapport entre la réalité et d'autre part la pensée doit être à nouveau ressoudé. On doit retisser le lien entre la pensée à distance, comme vous le faites, mais en lui donnant, me semble-t-il, une dimension réellement concrète. Si j'ai insisté sur la question de Nuit debout, sur ce qui a fait polémique, ce n'est absolument pas pour, disons, approuver tout ce qui a été fait, les anathèmes ou les exclusions. Mais simplement, moi j'ai perçu, j'allais dire presque grâce à mes étudiants, j'ai perçu ce moment exceptionnel, pas simplement hérité de Podemos et d'autres mouvements qui nous ont précédés, mais ça veut dire quelque chose. Ce moment exceptionnel où on essaye à quelques-uns de réfléchir à distance, tout en étant sur une place publique, avec cette particularité qui permet de croire que la démocratie est réellement possible. Alors c'est une toute petite chose, mais je crois que nous avons une responsabilité collective, intellectuelle et véritablement discursive, mais un discours qui est réellement ancré, si je puis dire, dans le réel, puisque je crois vraiment que l'utopie du réel est dans notre actualité, est de notre actualité.
Alors cette responsabilité collective, avant de redonner la parole à la Finkielkraut, je voudrais revenir un instant vers Régis Debray. Ça n'est pas quelque chose que vous rejetez en soi de toute manière, mais quelles seraient les conditions qui feraient que vous seriez tenté justement de revenir, si ce n'est dans le débat, ou en tout cas dans le combat des idées? Est-ce que vous considérez par exemple que le moment n'est pas suffisamment stimulant et important pour avoir envie d'y revenir?
Non, d'abord évidemment, en cas de crise nationale extrême, bien sûr que tout le monde serait sur le pont. Mais encore faut-il qu'il y ait des navires qui vous acceptent sur le pont. Je vais vous donner une anecdote, je ne veux pas du tout incriminer le journal Le Monde, mais je fais partie d'un...
Si vous vouliez plutôt incriminer la radio France Culture, ça nous arrangerait.
Mais il n'y a pas de raison de le faire.
Non, mais je vais vous donner un exemple très simple. Je fais partie d'un groupe de diplomates, d'anciens ministres des Affaires étrangères. Nous avons envoyé au journal Le Monde un article à la veille de la réunion de l'OTAN pour leur signaler que la France pourrait prendre une certaine position vis-à-vis des États-Unis à l'intérieur de l'OTAN, et vis-à-vis d'une série de provocations, notamment vis-à-vis de l'extension du pacte atlantique au monde entier, ce qui en fait une sainte alliance, etc., etc. C'était signé par des gens très bien, je vous signale, pas par des oseaux, mais par des anciens responsables politiques. On nous a dit qu'il n'y avait pas de place. Voilà. Alors, quand ça, une fois, deux fois, trois fois, bah, vous vous dites, on sortira de chez soi quand il y aura vraiment le feu. Mais avant, non.
À la Finkielkraut.
Oui.
Ah, peut-être pour réagir à ce qui
est...
Il n'y a pas vraiment de question, c'était aussi pour que vous puissiez réagir à ce qui venait d'être dit. Je ne sais pas si vous rencontrez des difficultés pour faire passer certains de vos textes, par exemple.
Non. Je ne rencontre jamais des difficultés de cet ordre. J'ai été amené, dans le courant de la discussion, à citer mon propre cas, mais je ne me considère absolument pas comme une victime. C'est-à-dire, certes, les attaques sont féroces, et je répète qu'il n'y a pas de pire accusation aujourd'hui que celle de racisme. Elle est épouvantable, elle vous exclut de l'humanité, mais je ne suis jamais censuré. Ce qui fait que, voilà, j'ai la possibilité de m'exprimer, de répondre, et de continuer à réfléchir, parce que, évidemment, le risque, c'est d'être pris dans ce jeu d'attaque-réponse au détriment d'une méditation plus longue. Et j'espère ne pas réussir à ne pas tomber dans ce piège. Mais je voudrais dire en écho simplement à ce que a dit Michel Rieu-Sarcey que je crois qu'il faut aussi être capable de réfléchir à notre situation dans d'autres termes que ceux de la libération. Je me souviens d'un slogan de 68, « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». Ce slogan, je ne sais pas si je l'ai répété avec d'autres, j'étais un fantassin anonyme, et c'était l'époque, j'avais 19 ans, c'est l'époque la plus mimétique de l'existence, donc je faisais comme tout le monde, mais ce slogan m'a très vite gêné, peut-être pas sur le coup, mais très vite, parce que j'étais moi-même, si vous voulez, le descendant d'un vieux monde. Mes parents étaient des juifs d'Europe centrale, et ce vieux monde, je ne le voyais pas comme écrasant, mais comme évanescent. Je savais qu'il allait disparaître avec eux. Autrement dit, je ne reprenais pas à mon compte, de ce point de vue-là, la célèbre et magnifique phrase de Marx du... la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. C'est dans le 18 primaire de Louis Bonaparte. La tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. Ben non, pas forcément. Il y a des traditions qui s'évaporent. Et j'ai pris conscience, et c'est là que peut-être mes ennuis ont commencé, que cela ne valait pas simplement pour le monde d'Europe centrale dont je venais, mais même pour la France dans laquelle j'avais grandi. J'ai pris conscience de la beauté de notre héritage. Elle m'est apparue, cette beauté, quand je me suis rendu compte de son caractère fragile et périssable. C'est là que je me suis mis à lire l'Enracinement de Simone Veil, plutôt que le 18 Brumaire, ce patriotisme de compassion, la tendresse pour une chose belle, fragile, précieuse et périssable. Et je me retrouve tout à fait dans les propos d'un homme de gauche, Jacques Julliard, L'école est finie, tout récemment, un livre sur les dernières réformes du collège. Il dit « Je ne vois pas de littérature dans les programmes. » Or, la France a été, selon la très belle définition de Mona Ouzouf, patrie féminine et patrie littéraire. « Notre littérature est notre bien le plus précieux, dit-il. » Je le dis tout net. « Si je devais me convaincre que la gauche est, fût-ce à son corps défendant, l'agent de la marginalisation de notre littérature dans la France moderne, ce n'est pas avec la littérature, ma patrie quotidienne, que je romprais, c'est avec la gauche. » Et là, je fais mien. C'est ça, si vous voulez, ce que pourrait être un conservatisme intelligent aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le maintien des avantages acquis ou des privilèges ou la perpétuation de l'inégalité. C'est le discours de Suède, encore une fois, de Camus, décembre, 10 décembre 1957. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Donc, moi, je ne suis pas en guerre, ce n'est pas vrai, je ne pratique pas l'invective, j'essaye de plaider, comme je peux, pour une sorte d'écologie générale. Non pas un principe de libération à l'égard de tout, et notamment du passé, parce qu'il nous incombe et il nous permet d'être ce qui nous sommes, mais un principe de sauvegarde, sauver non seulement la Terre, mais aussi la langue, mais aussi la littérature, mais aussi ce qui nous reste de nation, parce que l'entrée de la France dans une société post-culturelle, post-nationale, post-littéraire ne me dit rien qui vaille.
Et vous voyez, c'est intéressant parce que vous parliez à la Finkielkraut de ce monde qui se défait d'un monde qu'on voulait empêcher, la défaite finalement. Et c'est intéressant parce que, vous savez, dans le cadre de Nuit Debout, puisque Michel Rieu-Sarcey parlait tout à l'heure de Nuit Debout et de la nécessité d'articuler le débat d'idées et le réel, les luttes sociales, etc. Dans le cadre de Nuit Debout, il y a un jeune, je crois que Patrice Manivier, qui est philosophe, qui est dans cette salle, je crois que c'est lui qui a photographié la première fois ce slogan sur un mur de l'Université de Nanterre. Il y a un jeune qui a écrit cette phrase qui devrait vous parler, puisque vous vous intéressez à cette défaite du monde, ou à ce monde qui se défait. Il a écrit, ce jeune, « Une autre fin du monde est possible ». Ça dit quand même quelque chose. Une autre fin du monde est possible. Il y a des générations de jeunes militants ou pas militants qui ont espéré bâtir un autre monde. Et aujourd'hui, on en est à un moment, et il y a mille interprétations possibles de cette phrase, où on écrit « Une autre fin du monde est possible ». On revient d'ailleurs quelque part à Sartre, qui disait que, vous voyez, que l'homme, ce qui fait l'homme et non pas le sous-homme, c'est un rapport à une certaine fin, à un certain au-delà, à un certain horizon. Aujourd'hui, l'horizon s'est défait, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, et on a une jeunesse qui s'interroge sur le plus désirable qui soit, c'est-à-dire une autre fin du monde possible. Je sais que vous avez vécu un moment difficile à Nuit Debout, mais ça devrait vous intéresser, cette interrogation à même les murs d'une jeunesse qui est en quête justement d'autre chose.
Alors, il est vrai qu'il m'est difficile d'avoir sur Nuit Debout un point de vue objectif, mais en même temps, comme j'essaye de maintenir à France Culture l'esprit insufflé par Jean-Marie Borzex, je souhaite, je ne sais pas si j'y réussirai, pour un peu aller dans votre sens et pour explorer la signification de cette phrase énigmatique et en effet très belle, je souhaite organiser un débat que j'intitulerai « La nuit nous appartient » et je voudrais inviter quelqu'un qui se réclame de Nuit Debout, pas un porte-parole, parce qu'il n'y a pas de porte-parole officielle, mais quelqu'un qui connaît bien le mouvement, qui l'a vécu de l'intérieur, et aussi des gens dont on en a moins parlé, mais qui ont occupé des places la nuit, ceux qu'on appelle les veilleurs. Parce que ça continue, je le sais, à Paris, ils lisent des textes, etc. Ça s'est fait dans la lignée du mariage pour tous, mais ça s'est complètement
de la émancipé. Manif pour tous, oui.
De la manif pour tous, pardon, de la critique du mariage pour tous, mais ça s'est complètement émancipé de tout cela. Et ces mouvements-là, à l'écart de réflexion de citoyens, m'intéressent, et je pense en effet que il ne faut pas les traiter avec mépris, même si voilà. Et donc je suis tout à fait d'accord pour oublier mon expérience et pour essayer d'en apprendre davantage.
On va redonner une dernière fois la parole à Michel Rieux-Sarcey et à Régis Debray. Michel Rieux-Sarcey, est-ce que du coup vous seriez d'accord et disponible pour réfléchir autour de cette notion et de cette belle phrase qui intéresse Alain Finkielkraut?
Ah, tout à fait. Je serais non seulement d'accord, mais j'aimerais ajouter, si vous le permettez, à ce que dit Alain Finkielkraut, cette question de tradition qu'il regrette en quelque sorte de ne plus avoir à sa disposition pour pouvoir penser vraiment. Il n'a pas tort d'une certaine manière. Seulement, la tradition littéraire, la tradition philosophique, Platon bien sûr, Aristote et bien d'autres, nous parlions tout à l'heure des grands maîtres, cette tradition-là, sans doute est-elle la nôtre, mais il y en a une autre, immense, tradition des anonymes qui ont été entièrement oubliés. Peut-être suis-je davantage sensible à cette tradition des oubliés parce que, en ayant travaillé très longtemps, et je continue, sur la question du féminisme et sur la question du genre, à chaque génération, il faut repenser, revoir, essayer de réfléchir sur ce que liberté veut dire.
C'est ce que vous expliquez en tout cas d'ailleurs dans votre livre « Le procès de la liberté », cette importance des oubliés qu'il faut aussi rendre la mémoire. Mais Régis Debray, peut-être pour conclure déjà cette première heure.
D'abord, assez de manichéisme. J'en ai assez du choix entre Sartre et Camus. On peut être pour les deux. Pourquoi faut-il toujours choisir l'un contre l'autre? Je pense que Sartre est un homme d'une générosité extraordinaire qui a tenté de penser le collectif, et Camus est un homme qui a tenté de penser la noblesse de l'individu. On peut, je crois, rendre compatibles l'un et l'autre. Maintenant, je voudrais simplement dire que, évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus lutter pour la naissance d'un autre monde au bout du chemin de nos peines, comme on dit avec un peu de grandiloquence. Il faut effectivement empêcher que le monde, ce qu'il avait de meilleur dans notre héritage, il faut toujours un héritage pour aller de l'avant. Et la crise de la vie est d'abord une crise de la mémoire, bien sûr. Mais empêcher que le monde ne se défasse, ça veut dire aujourd'hui un surcroît d'héroïsme et de stoïcisme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus avoir de fausses fenêtres devant nous. Nous devons nous battre de façon lucide. Je dirais sans illusion d'ordre idéologique ou même religieux. Et donc, être un athée et lutter pour la justice, c'est tout de même aujourd'hui un surcroît d'effort et un surcroît, je dirais, de courage. Donc, les choses peuvent aller mieux si nous ne désertons pas la place publique.
Et merci Régis Debray, Michel Rieux-Sarcey et Alain Finkielkraut d'avoir participé à cette première table ronde des 30e rencontres de Pétrarque. Merci à toutes les équipes du rectorat qui nous accueillent extrêmement chaleureusement chaque année, aux équipes techniques Adrien Gaza, Patrick Muller, Mathieu Tourin, Gilles Manet. Émission réalisée par Nathalie Salle. Merci également pour son aide à Mathieu Maraudin. On se retrouve demain autour du thème suivant: dépasser la crise du progrès. Nous serons en compagnie de Cynthia Fleury, Jean-Noël Jeannet et Michael Fossel. Je serai toujours évidemment aux côtés de Jean Birnbaum. À bientôt.